bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale, soyez les bienvenus. Merci de nous rejoindre avec Laïla
Kadobouzoni,
Daniel Morin,
bonjour,
Tom Villa,
bonjour.
Alexis Le Rossignol, Frédéric Siris, tout à l'heure Tanguy Pastureau et notre invité Grégoire Delacour.
Bravo.
Vous signez, bonjour Grégoire, merci bonjour. De venir à ce micro, vous signez chez Jean-Claude Lattès votre nouveau roman qui s'appelle Mon Père. J'ai dit en préambule à notre public dans ce studio, on va quand même se marrer même si le sujet n'est pas drôle. Et j'avoue ne pas avoir bien dormi après avoir lu votre livre et m'être posé la question de dire qu'est-ce que je vais dire pour expliquer en une phrase qui normalement ressemble à 8 phrases.
T'as jamais réussi à expliquer en une phrase.
Non,
c'est jamais arrivé à des sujets plus légers.
J'ai appris que j'étais proustien dans mes questions.
Ouais, c'est une période.
C'est pire.
Une longue phrase s'appelle une période.
Voilà. Donc je vais faire une période de 800 mots pour essayer de résumer ce livre où le titre déjà Mon Père peut être interprété comme un jeu de mots entre le papa et le père, le curé, l'abbé,
l'ecclésiastique
à l'église, sauf que le tout début du roman est arrêtez-moi jusqu'à ce que je ne dois plus dire le tout début
c'est
du
bizarre,
roman
cette phrase.
C'est un monsieur qui rentre dans une église, qui dévaste tout. Dans l'église, qui viole le lieu, comme pour se venger. Bah oui, ouais, j'emploie volontairement cette expression. Comme pour se venger d'une agression qu'aurait subie son fils de la part du curé de cette église. Donc,
exactement.
Pourquoi mon fils? Pourquoi l'avoir touché, l'avoir violé, l'avoir violenté? Et il détruit l'église. Et à partir de là, il y a une sorte de huis clos qui s'installe entre les deux pères, entre l'abbé et le papa, autour de ce qui devient une enquête pour nous, de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il s'est réellement passé quelque chose? Est-ce le bon curé et qu'a subi ce Benjamin si ma mémoire est bonne, le nom de cet enfant.
Bah pour l'instant,
je m'arrête là.
C'est un bon résumé.
Comment vous est venue l'idée? J'imagine que ça, c'est aussi, on vous a posé cette question de nombreuses fois.
Non, elle est toute neuve. Non. Sérieusement, c'est une idée, c'est une envie très ancienne. Mm. C'est une envie très très ancienne du catéchisme. Quand j'avais l'âge du petit gamin dans le livre, quand on m'a raconté l'histoire d'Abraham et du sacrifice d'Abraham, qui d'ailleurs devrait s'appeler le sacrifice d'Isaac. C'est quand même lui qu'on a essayé de trucider. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'un père à qui on demande de tuer son fils, qui est très précieux, puisqu'Abraham a eu beaucoup de mal à voir le petit, il l'a eu à 50 ans, avec l'intervention d'ailleurs du Très-Haut, il dit oui. Il proteste pas, il va aller tuer ce qu'il a de plus précieux.
Oui, alors pour rappeler la scène, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, va là-haut sur la montagne, siffler sur la colline, prends...
Sacrifie-le au lieu de sacrifier un mouton en temps normal.
Et au moment où il va pour planter sa dague et ou tuer
le petit,
un ange vient...
La main de l'ange de Dieu arrête la main et lui dit, Dieu est très content, tu lui as obéi. Et puis ça s'arrête là.
Et là où on a le point commun de toute cette histoire, c'est le silence.
Absolument. Donc ni Abraham ne discute avec Dieu en disant arrête tes conneries, je veux dire c'est mon petit quand même.
On ne parle pas comme ça à Dieu, Grégoire Delacour. On ne dit pas arrête tes conneries.
Dans le secret de la prière, pourquoi pas? Il y a justement, mettons des mots justement sur les choses. Et surtout, ce qui m'inquiète, c'est que le gamin n'ose pas dire papa arrête. Enfin, tu vas pas bien là, tu vas pas m'égorger là. Et quand Dieu arrête le geste d'Abraham, Abraham disparaît. Le petit, on ne sait pas ce qui devient et on n'en entend plus jamais parler. Et je dirais que ce péché immense de premier grand infanticide se passe dans le silence, qui est une sorte de bénédiction par le silence. Voilà, c'est normal, personne va se plaindre derrière.
Oui, et ça, quand on peut même rajouter à ça, on n'écoute pas un enfant et la parole de l'enfant n'a aucune importance.
Ah, dans l'Ancien Testament, il est bon pour se prendre des
tournures. Encore aujourd'hui, devant certains tribunaux, la parole de l'enfant.
On va y venir. Et donc, quand vous avez 8 ans, que vous entendez ça, c'est tragique parce que vous dites que la personne qui est censée vous aimer le plus, vous protéger inconditionnellement, qui est le père dans tous les sens du terme, est celui qui est capable aussi de vous faire le plus de mal.
Chez Jean-Claude Lattès, donc Mon Père, c'est le début de ce roman. On va continuer d'en parler, mais d'abord des questions concernant Grégoire Delacour. Lors de l'épreuve de philo au bac, il se dit 40 minutes avant la fin qu'il n'est pas satisfait de son travail. Grégoire Delacour, que fait-il?
Déchire sa copie.
Tout.
Il mange sa copine.
Non.
Il se dit, je vais le repasser en septembre.
Il s'en va. Il sort de la salle.
Non.
Il le refait,
exactement. C'est une bonne réponse. Vous recommencez tout à zéro 40 minutes avant la fin.
Ouais, j'avais fait 8-10 pages, mais vous savez, ce genre de diarrhée verbale, de grand philo, on croit qu'on fait le monde. Et je me lis.
Mais avec une structure quand même, avec un squelette.
Non, c'est compliqué pour moi.
Un truc à la Nagui un peu alors.
Voilà comme le début de l'émission. Ouais. Je commençais des phrases qui finissaient jamais.
Vous influencez le témoin, monsieur.
Et je relis ma copie. J'étais enchanté en la lisant. Je dis, mais c'est absolument indigeste, c'est effrayant, c'est nul. Même moi, je ne comprenais pas ce que j'avais écrit. Et je me dis, c'est foutu, parce que j'avais que la philo, où j'étais pas très bon le reste de l'année. J'avais rien d'autre, puisque j'étais nul en tout. Et je me dis, il faut au moins que j'ai une moyenne digne. Donc, j'ai à 40 minutes, j'ai demandé une feuille et j'ai regardé les regards envieux des autres qui disaient, oh là là, il pisse beaucoup de copies, lui, il demande du papier et tout. Et en fait, j'ai fait exactement une page et demie et j'ai eu 17 sur 20. Wow. Avec un coefficient 7. Donc, parfois, il est bien de s'écouter et de se taire et de se redonner la parole.
Ou pas. Ouais, ça dépend.
Voilà. Et j'ai au pire, à 40 minutes, vous aviez l'autre option encore. Vous pouviez donner.
Oui, mais elle était.
Non, c'était un brouillon, j'imagine, non?
Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça a évacué les horreurs en moi et j'ai pu épurer.
Finissez la phrase de Grégoire Delacour. Il l'a dit, avec la publicité, j'écris pour manger. Avec un roman, j'écris pour...
Pour vivre.
Oh, joli, Leïla. Pour vivre, c'est beau, ça.
C'est la dernière fois qu'on a dû compléter une phrase dans cette émission. C'est Benoît Poulvorde qui l'a terminé. Et je ne sais pas comment il a terminé.
Pas de la même manière, non. Écrire pour vivre, ça veut dire que cette notion d'être vital, vous n'existez que par l'écriture.
Je sais pas si... Non, j'existe, je crois, maintenant. Mais l'écriture est quelque chose qui m'a ramené de très, très loin.
Ça soigne quoi, l'écriture?
Ça soigne... ça pense, ça passe un baume, ça soigne pas tout à fait des blessures terribles, notamment de l'enfance, où tout se passe et beaucoup de choses se cassent. Et moi, j'ai eu une enfance cassée, où c'est comme un vase. Et écrire, ça m'a permis de me recoller. Alors on dit, c'est triste, il a été cassé, mais ça permet, quand on est cassé, de se recoller en mieux. Donc écrire, ça me permet de me recoller en mieux.
Sauf qu'un vase cassé, il y a toujours des traces qui restent.
Oui, mais c'est beau,
Audiard
disait que les fêlures, ça laisse passer la lumière. Donc ça me va bien.
Vous attribuez cette phrase à
Audiard, Michel Audiard, qui a dit « J'aime les filets, il laisse passer la lumière ».
Ouais, parce que c'est aussi des paroles d'une chanson de Leonard Cohen, donc je me demande...
Et ben c'est très bien Leonard Cohen aussi, que j'aime beaucoup.
Non, mais avec cette notion de un artiste a forcément une fêlure, et c'est de là que jaillit la lumière. Donc
c'est bien, c'est deux belles références à Leonard Cohen.
Audiard, c'est une parodie de Cohen, donc c'est normal.
Voilà.
À 12 ans, de qui Grégoire Delacour était-il amoureux?
De sa prof?
Non.
De sa mère?
C'est quelqu'un de connu.
Cinéma?
Brigitte Bardot?
Non.
Musique?
Cinéma, musique?
Nicoletta?
Ni cinéma, ni musique.
Alors, c'est une animatrice?
Claire Chazal? Télé?
Non.
Claire Chazal?
Non.
Simone Veil?
C'est l'animatrice?
Anne Sinclair?
Denise Favre?
Non, du tout. J'ai pas dit animatrice.
Ah, c'était une politicienne?
Simone Veil.
On se rapproche. C'est pas une vraie politicienne, mais on va dire qu'elle est dans ses.
C'est une épouse de. Ah non, c'est une animatrice de.
Non, arrête avec animatrice.
C'est pas animatrice.
Animatrice Cardestin?
Non.
Elle est pas comédienne.
Alors, on se rapproche. Avec.
Même Pompidou?
Daniel Mitterrand, non, c'est trop long.
Madame de Gaulle?
Non.
T'es Yvonne?
Non, mais Grégoire. Non, mais arrête.
Il sait pas. Il est en train de me dire que c'est
pas.
Oui. Il sait pas lui-même.
À 12 ans.
Tara Morgan? Je sais pas.
C'est pas Brigitte Macron, parce qu'elle n'était pas encore à la Providence quand j'y étais.
Brigitte Bardot?
Non.
C'est donc une femme d'un homme politique.
Mais c'est une femme d'une famille politique.
Ah, Jackie Kennedy?
Alors, on se rapproche, vraiment.
Françoise Kennedy?
Non.
Jackie Quartz?
Non.
Elle n'est pas française.
Lady Di? Non, elle est enclavée en France.
Thatcher?
Grace Kelly? Caroline de Monaco?
Mais exactement.
Ouf.
La fille...
Ah oui?
Ouais, c'est ça.
Oh là là.
Vous étiez amoureux de Caroline de Monaco?
Ouais. Je collais ces images où elle avait ses bonnets au ski. C'était très mignon ces années-là. Elle avait 2-3 ans de plus que moi. Et un jour, ma mère m'a dit, mais pourquoi, j'avais 12 ans, tu colles les photos de Caroline de Monaco dans ta chambre?
Parce que vous êtes abonné à Point de vue Image du Monde.
Non, ma mère lisait ça. Les Jours de France, enfin peu importe. Et je dis, mais maman, tu sais, je la trouve très belle. Je l'aime beaucoup. Alors elle me regarde assez effondrée. Et je lui dis, tu crois que je pourrais l'épouser un jour? Elle s'est assise, effondrée, elle m'a dit « Pourquoi pas ?» Et ce jour-là, elle m'a fait un cadeau inouï.
Tout tout est
de
possible.
De dire que rien n'était impossible, ouais. Que voilà, alors évidemment d'autres sont passés avant moi.
Je vous en prie, soyez pas
désagréables. C'est joli. D'autres sont passés avant moi.
Derrière l'auteur, il y a un homme de lettres.
On chantait les sérénades. Son cœur a dégringolé du balcon. Et moi, non, j'ai pas, voilà.
Mais trop tard.
Mais c'est vrai. Bon, quand même.
Dans les années 70, Grégoire Delacour avait un chien.
Ouais.
Quel était le nom du chien?
Caroline.
Non, pas. Non.
Kiki.
C'est un nom masculin?
C'est un mâle, oui.
C'est un nom d'auteur, un nom propre de quelqu'un qu'on connaît?
Ouais.
Nagui.
Non.
Johnny.
Qu'est-ce que ça peut être?
Alors, parmi tous les noms que vous avez donnés tout à l'heure, le nom du chien a été prononcé.
Jacques Chirac.
Pas loin.
Pompidou. Mitterrand.
Non.
Charles de Gaulle.
Pompidou.
Non. Charles.
Giscard.
Oui.
Giscard.
Bravo.
Giscard.
C'était quoi comme chien? C'était un chien chauve.
C'était
et en même temps, c'est plus joli pour un chien que pour un homme.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est une sorte de petit papillon bâtard que
j'ai
trouvé.
C'est pas cool. Il y a une famille entière sûrement de Giscard.
Que j'ai trouvé qui m'a suivi de la patinoire de Valenciennes à maison en 74. Giscard venait d'être élu, on l'a appelé Giscard. Ce pauvre chien s'est fait écraser, je vous jure que c'est vrai, 7 ans après. Et mon père, qui était l'homme le moins drôle du monde, a eu quand même cette phrase tragique. Mon bel, il a dit, oh, il aura fait qu'un septennat, le chien.
Oh, c'est joli. Très bonne vanne. Très bonne.
Je m'en vais.
Que lui demande une jeune fille de 14 ans lors d'une remise de prix par des lycéens?
Reconnaître l'enfant.
Un selfie, une dédicace particulière, de faire d'elle un personnage de son prochain roman.
Non.
De lui raser le crâne.
Qu'est-ce que...
Une jeune fille, 14 ans, oui. Alors, c'est une séance de dédicace, hein, j'imagine, avec un prix des lycéens. Et,
c'est un mot spécial.
De signer avec le nom d'un nom.
Une rencontre entre les lycéens et Grégoire Delacour. Mm-hmm. Et cette lycéenne lui pose une question.
Elle lui demande d'écrire des livres moins longs.
Ah, bah non, mais ils sont
mais
pas
non,
longs.
Mais je sais pas. C'est elle lui demande, je me mets à la place du lycéen.
Elle lui demande dans quelle classe.
Non, ça c'est bateau, les conseils pour devenir écrivain. Donc c'est peut-être.
Elle lui demande s'il a un vrai métier.
Non.
Elle lui dit si
peut-être de relire son premier roman.
Non.
Est-ce qu'un jour elle pourrait être écrivain s'il a des conseils à donner?
C'est vraiment insolite par rapport à.
Alors, c'est pas insolite. Si. Je ne sais plus si vous étiez. Qui était là pour. Enfin, mais en tout cas, normalement, Daniel et Leïla connaissent sa réponse parce qu'on l'a dite, cette réponse, il y a quelques jours à ce micro.
Oh bah alors ça c'est nul hein, parce que
bah quoi, c'est nul.
Elle n'a pas écouté les émissions.
C'est pas
non, vous n'écoutez, vous n'écoutez
mais si on écoute, on participe.
Si c'est un moment, on s'embrasse avec Leïla, on ne sait plus.
Dans l'interro ou pas?
Non.
Ah bon. Alors
c'était pas dans l'interro. C'était pas dans l'interro. C'était avec un autre invité où on a parlé de Grégoire Delacour.
Ah l'adresse, son adresse mail.
C'était pas l'adresse mail.
Ou l'adresse postale.
On vous a demandé si, enfin la jeune fille vous demande l'adresse de.
Bah Musso.
Guillaume Musso.
Ah voilà.
Absolument.
Alors, il y a quelques jours...
Je ne l'ai pas donné.
C'est gentil. Il y a quelques jours, nous avons reçu Guillaume Musso, et voilà ce que je lui ai posé comme question. Avez-vous l'adresse de Grégoire Delacour?
Je l'aime beaucoup, oui.
Vous avez l'adresse de Grégoire Delacour?
Oui.
Non, parce que c'est souvent une question qu'on lui pose à lui.
Ah, d'accord.
Avez-vous l'adresse de Guillaume Musso? Donc, je voulais savoir si vous aviez...
Mais oui, mais on se connaît bien et on s'apprécie beaucoup.
Il sera là, avec nous vendredi.
Voilà, exactement. Son dernier livre est très, très fort, hein, vraiment.
Voilà, c'est
merci,
chic,
Guillaume.
Non, ça, c'est Nagui qui le disait.
Merci, Guillaume. Merci à tous.
Ce côté, quand on pense que tous les auteurs se connaissent entre eux et sont amis, visiblement, c'est le cas.
Non, c'est pas vrai. Enfin, tout le monde ne se connaît pas.
Non, mais Guillaume,
il y a des
vous,
amitiés, oui, on se connaît très très bien. On se connaît bien, on se respecte beaucoup depuis longtemps. Et Guillaume est un auteur qui a vraiment, malgré la position intenable qu'il a, d'être l'auteur qui vend le plus, inaccessible, tout en haut de l'Everest, là où on ne respire pas le même air que nous, les pauvres tâcherons de la plaine. Quand il a lu mes livres, un de mes livres, il m'a appelé, il m'a dit j'aime vraiment votre livre, j'aimerais bien vous connaître et je vous invite à déjeuner. Et j'ai trouvé ça formidable. Donc on s'est vu il y a 4
élégant.
Ans. Oui, élégant. Et depuis, on a appris à se connaître et on est devenus bons amis.
Et vous, divulguez toujours pas l'adresse de Guillaume Musso?
Non, il habite à Paris, dans les endroits où il y a beaucoup de livres.
Et vous, vous parlez de vos projets respectifs quand vous êtes
non,
en train d'écrire?
Non, parce que moi, je dis rien. Et je pense qu'un livre, on ne peut en parler, en ce qui me concerne, que quand il est écrit, il faut le délivrer au livre. Si on en parle avant, l'histoire existe sans que vous ayez besoin de l'écrire, pour moi.
Alors, justement, parlons de Mon Père, ce nouveau roman chez Jean-Claude Lattès, Grégoire Delacour. Vous l'avez écrit pour qui?
Bah, j'ai écrit un peu pour moi, pour ma propre colère, ma frayeur de père. d'abord, j'ai 4 enfants, et de me dire que je me souvenais, donc après Abraham, on l'a évoqué petit, plus grand, je suis parti en pension très tôt, donc à 10 ans, j'étais dans les trains tout seul, et mes parents ne s'interrogeaient pas de savoir s'il y a des prédateurs. Je sais pas, il y a une sorte de naïveté ou de confiance dans l'humanité à l'époque. Et puis après, je suis allé dans un pensionnat de jésuites où c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des ombres, c'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont frôlé comme ça, qui ont abîmé des camarades, etc. Donc c'est des choses qu'on taisait nous-mêmes, à qui on allait dire, j'avais pas rentré chez moi, dire à mon père, bon, catholique, pratiquant, papa, il se passe des choses. On ne sait pas, on ne savait même pas si on pouvait en parler, si c'était bien ou mal.
Ouais, désolé,
en 70, moi j'avais une éducation qui faisait qu'on se taisait, que des choses étaient normales.
J'ai grandi chez les jésuites, et c'est arrivé, et des camarades en ont parlé.
Non, mais c'est formidable.
Et on est allé en parler. Ouais. Et voilà.
Après, c'est l'histoire de chacun. Et c'est dur. C'est une parole qui est dure, qui n'est pas forcément bien accueillie.
Bien sûr.
Il y a encore des parents qui disent à l'enfant aujourd'hui, qui va dire le curé fait ça, mais tu dis n'importe quoi, pas monsieur le curé, ou pas le professeur, ou pas le médecin, ou pas machin. Donc il y a quand même une parole de l'enfant qui, par principe, est mise en doute.
Et puis il faut expliquer quand même, et on le voit très très bien dans le livre, comment le curé, lorsqu'il s'approche d'un enfant, lui explique à quel point c'est normal, que c'est naturel, que c'est justement là où va l'amitié, et que ça sera notre plus grand secret. Donc comment trahir la confiance de cet homme qui est si bienveillant a priori, et aller le raconter aux parents. C'est-à-dire que pour l'enfant, il y a aussi une difficulté à délivrer ce message-là, parce que il est placé dès le début, sous le sceau du secret et de la confiance donnée.
Et de la préférence. Gide disait, je ne veux pas être aimé, je veux être préféré. Ouais. Et pour un enfant qui est souvent un petit peu plus brinque-ballant qu'un autre, plus fragile, on va dire, qui est une proie plus facile, quelle joie d'être préféré par quelqu'un qui incarne une autorité, que ce soit un prêtre, un oncle, un professeur de gym, un professeur de piano. Attention, pas du tout le procès de l'Église en général.
Non, mais
ici,
c'est
tous ces hommes qui,
ça peut être un tonton, ça peut être un
frère,
voisin,
un frère. Voilà. Et aller dire, par exemple, dans le cas d'un prêtre dont on sait, dans les petits villages et tout, qui vont le week-end prendre le café chez les parents, dire, vous savez, que c'est impossible. Donc, il y a vraiment un problème de parole. Donc, moi, j'ai écrit, et puis avec le silence de l'Église, qui me, en tant que catholique, là, j'ai été blessé quand j'ai vu mon Église se taire, mon Église protéger les prédateurs, et pas mettre l'enfant au centre, qui est la chose la plus importante du monde, je pense, puisqu'il est à la fois une parole d'amour qu'on a avec quelqu'un d'autre. On fait un enfant pour le mettre dans le monde et on souhaite que le monde le protège, parce que cet enfant va continuer à inventer le monde et à le rendre beau.
Ce qui est le début de la Bible avec le divin enfant.
Tout tourne autour de ça, et l'Église est dans la négation même de ça et préfère se protéger. Donc j'ai écrit ce livre pour répondre dans cette colère, dans cette besoin absolument, cette urgence. C'est un livre que je pouvais pas écrire au début. Il fallait que les mots me fassent pas peur. Parce que comment on parle du silence? C'est quoi les mots pour aller parler d'un silence terrifiant?
Et vous avez, alors vous dites, ce n'est pas un livre contre l'Église, on peut pas dire non plus qu'elle en sorte grandie, d'autant que vous vous appuyez, c'est une force aussi dans ce roman, dans votre écriture, sur beaucoup de citations de la Bible, beaucoup de situations et de citations de la Bible.
Moi, j'aime bien ce que vous dites, citation et situation. La Bible recommande des tas de choses qui sont même pas respectées par ceux qui les commandent. La Bible a quand même créé une façon d'être dans le silence, dans le renoncement, dans la subordination. On doit sans cesse prendre le poids du monde sur nous-mêmes. Et c'est terrifiant. C'est-à-dire qu'à un moment, un gamin à qui on dit c'est des épreuves de Dieu et tout, comment vous voulez qu'il aille dire je veux pas? Donc la Bible avilit énormément, en fait. Et la chose la pire pour moi, c'est demandez pardon, il vous sera pardonné. C'est-à-dire qu'il y a une confusion terrible sur le pardon. On fait quelque chose de mal, on va demander pardon, on récite deux pâtés, un machin, et puis ça y est, on vous salue Marie, on est allégé d'une faute, c'est quand même assez terrifiant.
Et à l'époque, je me souviens, quand on était élève, on nous donnait des listes de péchés.
Absolument.
Qui nous permettait, quand on n'avait pas d'idée, de savoir ce qu'on pouvait dire au prêtre.
Ah, ça vaut deux points.
Non, c'est absolument vrai.
Ça,
c'est terrifiant de penser.
Mais ce qui est beau dans le livre, c'est que vous prenez ce parti pris aussi qui va à l'inverse de cette situation. C'est que le silence a fait que cet enfant a été conduit dans la pire des situations. Et on a le père qui, lui, veut entendre, veut mettre des mots, veut s'infliger une douleur atroce. Ouais. C'est-à-dire entendre le détail des gestes que cet homme a pu commettre sur son fils.
Ouais. Le papa, quand il rentre, il casse tout, on l'évoquait tout à l'heure, parce que l'église, le lieu est quand même un endroit incroyable, qui est un lieu de parole. Hein. On donne la parole de Dieu, on dit, il a dit que, mais c'est l'endroit le plus silencieux du monde. C'est-à-dire, dès qu'on fait du bruit avec ses talons, on a honte. Je sais pas, c'est un lieu très, très paradoxal. Il va tout casser, il va faire du bruit, il va inciser le silence, il pète les statues, tout ça, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais c'est où cette fameuse parole qui doit sauver le monde? Et puis, quand il chope le prêtre qu'il suppose être le prédateur de son fils, il s'enferme dans l'église pendant 3 jours et il veut tout savoir. Et c'est terrible parce qu'il va ouvrir la porte à entendre des choses qui sont à la limite du supportable, puisque l'horreur humaine n'a pas de fin. Alors que le bonheur, oui, mais l'horreur, c'est sans fin.
Ce papa qui fait la promesse d'être toujours là pour protéger, promesse impossible à tenir, parce que lorsqu'il se passe un accident, une agression, ben on n'est pas toujours là, on peut être là ensuite pour panser les plaies, mais on n'est pas là au moment où il faudrait l'être quand on est papa.
Ben ça, oui, c'est vraiment l'autre point de vue du livre, qui est de la colère d'un père, qui tout d'un coup s'en veut énormément parce qu'il n'a pas su protéger. Et finalement, même si on entoure d'amour, de protection, d'éducation,
et tous les papas
de
disent,
tout,
je serai toujours là si...
Et un jour, ouais, on n'est pas là. Il arrive toujours un moment où on ne peut pas être tout le temps là. Et tout d'un coup, il y a une colère contre soi, une colère contre cette inattention, d'une certaine manière, qu'on a eue, qui vient de loin, parce qu'on est soi-même, on ne nous a pas transmis des choses. C'est vrai que moi, mon père m'a jamais dit, fais gaffe, il y a des prédateurs, on lit, on l'apprend, on l'entend, mais on n'est pas enseigné de ça, on n'est pas riche de ça. Aujourd'hui, heureusement, mais à l'époque, non. Donc moi, j'ai transmis
à mes enfants et à mes filles
d'être très, très prudentes, mais dès qu'elles étaient en âge de comprendre, j'aurais parlé avec beaucoup de précautions, sans menaces, sans aller dire le monde, mais de dire, il existe des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on met la main sur quelqu'un qui a à ce point abîmé, attenté à vos enfants? Et là, se pose la question de la colère, bien sûr, mais de la vengeance. Mmh. Alors moi, je lui donne un couteau à mon papa dans l'église, et là, cet homme devant lui. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est capable
C'est un fils de boucher, en plus.
Il est fils de boucher, ouais. Est-ce qu'on est... Oui, il découpe proprement.
Il sait faire,
Il sait faire, donc ça crée une menace et une tension, mais... Est-ce qu'on est encore capable de se venger? Est-ce que la vengeance nous appartient encore à chacun de nous? Ou est-ce qu'on en a été dépossédé justement par les religions, par la loi? Mmh. Et pourquoi la punition d'un prédateur d'enfants est au fond un peu faible en termes de prison, de choses comme ça? Donc, à partir de quel moment on peut, entre guillemets, faire justice soi-même? Alors, ou est-ce point de légitimité?
Après, il y a le côté Charles Bronson du livre, le justicier dans la ville, celui qui veut régler lui-même ses comptes et qui fait pas appel à l'autorité, à la police ou à la justice. Ouais. Et là, c'est encore une autre lecture, c'est-à-dire cette espèce d'enquête, cette espèce de folie qui empare le père, le papa, on a un peu envie de le protéger en disant, ben non, parce que là, tu te mets hors la loi.
Mais qu'est-ce que c'est être hors la loi par rapport à quelqu'un qui lui-même est hors la loi? C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de lieu où il y a plus d'humanité.
La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent.
Oui, sauf que l'Église est aussi, et vous décrivez aussi l'Église comme une sorte de milieu mafieux aussi, qui est lui-même hors la loi.
Bien sûr.
C'est-à-dire que finalement, c'est pas comme si on s'attaquait à quelqu'un, un civil.
Oui, il s'attaque à une sorte de mafia, c'est sûr.
Parce qu'on voit la protection.
Il y a des codes de protection, etc. Ouais. Non, mais la question, c'est qu'est-ce qu'on ferait? J'ai entendu beaucoup de parents me dire, oh là là, si moi je prends l'assassin de mon enfant, je le bute. Ouais. Alors, un romancier, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ok, je vous mets l'assassin de votre enfant dans une pièce, je vous donne un couteau, enfin tout ce que vous voulez comme arme, butez-le. Et on s'aperçoit qu'on peut pas. Et c'est hyper rassurant, on ne pourrait pas. Alors,
Peut-être qu'on peut pas parce qu'il y a des conséquences. Peut-être qu'on a peur.
Ouais, mais je crois qu'il deviendrait quand même. Enfin, en tout cas pour moi, extrêmement dur d'attenter comme ça à l'autre, à la vie de l'autre. Vous savez, la vengeance, c'est échanger un mal contre un mal, et le pardon, c'est échanger un bien contre un mal. Mais il n'empêche que ce que Dante appelait le contrapasso, c'est-à-dire le contrepoids d'un mal, c'est quoi le contrepoids d'un mal fait un enfant? Le type, il va en prison 2 ans. Bon, je veux bien, tant mieux pour lui. Mais le gamin, il est en prison à vie dans son effraction. Il est comment on rend les choses, comment on rééquilibre les choses?
C'est vrai que cette notion de...
Pour moi, c'est très important.
Le contrepoint,
et c'est très important, c'est quoi le contrepoint?
On soupèse.
Quand on peut dire, ok, il y a un équilibre. Mmh. J'ai eu un mal, mais il y a quelque chose. Et je pense que c'est indispensable de se reposer les questions.
On va continuer d'en parler. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses à dire sur ce roman extrêmement bien écrit, mais à lire plutôt le matin, parce que le soir, j'avoue que on a du mal à s'endormir.
C'est pas la meilleure idée.
Non. Grégoire Delacour, mon père, chez Jean-Claude Lattès. Tom Villa, c'est un succès.
C'est
annoncé.
À moi, là non, vas-y, Daniel.
Non, c'est à toi.
On fait rapidement le pitch. Un prêtre viole un enfant. Le père de l'enfant veut se venger. Retrouve le prêtre pendant 3 jours. Il se fend face. Voilà. Donc,
sinon,
ça, c'est fait.
Non, mais non. Alors, il y a une question. C'est on vient juste d'en parler. On vient juste d'en parler. Et il y a une très bonne question. Se pose la question. Ça t'arrive. Tu fais quoi dans cette situation? Ouais. Je ne sais pas si se venger soi-même c'est une très bonne idée. Ou alors, faut sous-traiter. Moi, je pense que quand tu sous-traites, c'est comme quand t'achètes un lit. Ça sert à rien de faire le radin. Si tu es tranquille, vaut mieux mettre le prix. Ça peut être une théorie la con, mais je te jure que l'histoire que je vais vous raconter,
j'ai
a priori,
très peur du terrain.
A priori, le mec n'a pas mis assez cher. Alors, histoire totalement vraie qui a été révélée par Le Parisien avant-hier. Il y a un monsieur à Paris qui s'estimait mal soigné par son kiné et donc il a embauché des géorgiens pour tuer le kiné dans un faux accident de la route.
Non.
Donc, je comprends. Déjà, si j'en parle, je peux assurément le dire. Le plan a échoué. Tout ce que je disais, ne jamais être radin quand on veut faire buter quelqu'un. Le kiné en question va bien, enfin sûrement qu'il lui faut 2-3 séances de kiné, mais bon, bref, le gars, au lieu d'aller mettre une étoile sur Doctolib, il appelle les copains géorgiens pour faire part de son mécontentement. C'est fou quand même. Alors c'est marrant parce que quand tu te venges en délégant...
Des copains géorgiens.
Géorgiens.
J'avais compris chirurgien. Chirurgien.
Ça serait drôle.
Géorgien. Non, géorgien.
J'ai pas compris.
D'accord.
Non mais c'est marrant. D'ailleurs, c'est une communauté qui est souvent à qui on fait appel souvent. Les géorgiens,
pour
les
serbes,
les albanais. Oui, on n'a jamais vu une histoire où un gars commandite un meurtre en faisant appel à des tueurs à gages suisses ou luxembourgeois. C'est bon. Alors, je vous refais l'histoire parce qu'elle est vraiment.
Combien il était prêt à payer?
Alors, justement, je vous refais l'histoire parce qu'elle est tristement savoureuse.
Début d'un nouveau roman.
Un homme que nous appellerons Nagui. C'est des pseudos, ça sert à rien de gueuler, c'est des pseudos. Nagui a un problème au dos et Nagui va voir un kiné que nous appellerons Daniel. J'ai dit, c'est des pseudos, ça sert à rien de gueuler, c'est pour l'histoire.
Visualise.
Voilà. Alors, Daniel, le kiné, manipule mal au cou et au cervical Nagui, le patient. Nagui obtient une allocation adulte handicapé pour un problème au dos et Daniel, le praticien, a écopé d'un blâme de son ordre. Après plusieurs recours, Nagui a obtenu une indemnisation à hauteur de 30 000 euros, mais a réclamé en vain la radiation de Daniel, le kiné. Et du coup, il s'est dit, si je n'arrive pas à le radier en tant que kiné, je vais le radier de la planète directement. Notre ami Nagui décide d'appeler une amie géorgienne rencontrée sur l'application de rencontre Tinder. Alors là...
On l'appelle comment?
Ouais, voilà, amie plus géorgienne plus Tinder. Hein, quand on le rappelle, quand il y a de l'argent, c'est pas une amie, mais on s'écarte. Cette amie qui fait venir deux copains à elle de Géorgie. Alors pour la discrétion et surtout pour faire des économies, nos deux tueurs à gages arrivent à l'aéroport de Beauvais. Donc j'imagine les Géorgiens qui descendent de l'avion. Bah, putain, on n'est pas parti ou quoi? Ah d'accord, ok, bon, bref. Et là arrive le moment de buter le kiné. Nos deux Géorgiens foncent en voiture sur Daniel le kiné, qui vient de garer son scooter. Mais, jour de chance pour Daniel le kiné, il avait encore son casque de scooter, ce qui l'a protégé quand ils l'ont renversé. Et là, Nagui, furieux, exige qu'il termine le travail ou rembourse l'argent perçu. Et là, on découvre la somme donnée par Nagui pour buter le kiné. Tenez-vous bien, 2000 euros.
Mais non.
Soit, je suppose, 1000 euros chacun, je suis pas très bon en maths, mais... Non, parce que ça fait pas cher quand même, hein, parce qu'on a tous joué à ce jeu de pour combien tu sais, pour combien tu galoches ton pote, pour combien tu bois l'eau du pédiluve de la piscine, mais théoriquement, pour combien tu butes quelqu'un, il est tout en haut de la pyramide. Donc si le haut de la pyramide, il est à 2000 euros, eux, ils boivent de l'eau de la piscine pour 50 centimes. Bref. Les tueurs à gages géorgiens, c'est pas cher, mais ça a une certaine éthique. Nagui demande de finir le travail et propose aux exécutants d'asséner des coups de masse sur les genoux et les poignets du kiné.
Ah, voilà.
Ce qu'il refuse.
Ah merde.
Et il demande encore un homejacking pour enlever la victime avec extorsion d'argent, mais il refuse encore.
Tout est vrai.
Tout est vrai. Heureusement pour le kiné, la police écoutant toute la petite bande, ben s'est fait pincer. Moralité de cette histoire, mettez toujours votre casque en scooter. Et puis si vous n'avez pas de scooter, ben quand vous achetez un lit, n'hésitez pas à mettre le prix. Bonne journée.
Merci. La bande originale.
Les prénoms ont été changés. Oui, pour ceux qui arrivent à l'instant.
Pour ne pas blesser la famille, ni Daniel, ni la mienne. Je pensais que Leïla serait la géorgienne de passage.
Il était élégant.
Non, mais attendez.
Passer géorgien comme prénom.
Ouais, non,
ça passait pas.
J'ai jamais raté son coup, Leïla.
Grégoire Delacour. Vous avez retrouvé dans la Bible des histoires de vengeance, de œil pour œil, dent pour dent. Et de...
Ah, bah, il n'y a que ça dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, pour le faire très court, c'est une sorte de code civil, de code pénal de l'époque, où les choses sont très très bien écrites. Si vous tuez une de mes bêtes, vous m'en devez 5 vivantes. C'est très simple, c'est écrit.
C'est pareil, si vous couchez avec ma femme,
si je bute une stagiaire, je tue ma femme.
Mais t'es un monstre.
Non, mais c'est horrible. Ouais. Voilà. Donc c'est tout à fait écrit, c'est comme ça. Alors après, ça va parfois un peu loin, c'est un peu excessif, ouais. Mais les choses sont tout à fait écrites.
Bien que ça évolue un petit
et
peu.
Tout arrive avec l'arrivée de Jésus. On passe de l'autre côté. Et on dit, on pardonne tout. C'est-à-dire, on peut coucher avec la femme de l'autre. Pardon, c'est pas grave, j'ai pas fait exprès. Elle était là. Voilà. Et donc on est dans une sorte de politiquement correct avec le Nouveau Testament et qui fait qu'il y a un grand déséquilibre. Alors, et que voilà, bah, on est finalement, c'est un grand bordel.
Vous en êtes où vous avec la religion? Parce que vous avez une éducation très pieuse.
Oui, non, mais moi, je suis très en colère contre le gouvernement, je vais l'appeler le gouvernement de l'Église. J'ai rien contre l'Église au sens où, historiquement, c'est un lieu comme d'autres religions qui sont là pour essayer de rendre la vie terrestre plus supportable, ou en tout cas d'essayer de l'expliquer. Il y a plutôt, on peut supposer une bienveillance de départ. Maintenant, quand on creuse un peu, il y a quand même trop de saloperies qui en sortent pour que tout fût aussi parfait. Donc je suis absolument furieux contre le gouvernement, le président de l'Église qu'on appelle le pape et ses ministres, et très triste pour les gens qui y croient et pour lesquels qui ont une vie de foi et qui découvrent des horreurs, des barbarins, des choses comme ça et qui sont effondrés. Et des gens un peu âgés aujourd'hui, diront la génération de mes parents, qui sont même dans le déni de ça et qui pensent encore que ce n'est pas possible qu'un curé puisse faire ça à un enfant puisqu'il est le représentant de Dieu sur terre. Donc moi je suis un peu en déshérence de tout ça. Je suis allé dans le cœur des hommes, plutôt que dans le cœur des curés et des croyances.
Et qu'est-ce que vous attendez de l'Église? Parce qu'il y a plusieurs choses aussi qui sont soulevées dans le livre, à la fois des sanctions et à la fois aussi de se dire...
Mais pas des si simples mutations. Quoi.
Si ces hommes... Oui, déjà des vraies sanctions, et puis d'être sous le coup de la loi, et que ça soit pas un État à part entière, l'Église, mais que ça soit soumis à la loi du sol, quelque part. Ouais. Et puis vous soulevez aussi un autre point, c'est que ces hommes-là, ces curés, sont dans une attirance pour... tous les plaisirs charnels qui leur sont refusés.
Alors, il y a deux choses. Moi, j'attends immédiatement que le pape excommunie, mais dans la seconde tout près, dont il est avéré qu'il a commis un crime contre un enfant. Il n'y a pas eu d'excommunication en France du tout. Il y a eu un défroqué. C'est-à-dire un défroqué, il a juste le droit de ne plus faire les sacrements, mais il peut continuer à faire le catéchisme.
Mais c'est aux États-Unis, ça ?
Non, en Nouvelle-Zélande, il y a eu un seul excommunié.
Ah oui, c'est en Nouvelle-Zélande.
Et donc, il n'y en a eu qu'un. Donc ça déjà.
Le pape a appelé à rompre le silence là récemment.
Oui, mais ça y est, enfin, on parle de jour en jour, il se passe un petit temps. Mais déjà, ça va. Mais il a dit aussi un truc tragique. Il a dit aux bonnes sœurs qu'elles ont le droit de ne pas être d'accord que les prêtres les prennent quand même pour des filles de joie. Donc c'est quand même, vous avez le droit de dire non. Enfin, c'est pas, on a le droit de dire non, c'est non et puis c'est tout. Donc il y a une sorte de grande mollesse comme ça. Et je trouve que l'affaire Barbarin est assez significative.
Mais vous évoquez le célibat d'ailleurs.
Célibat, c'est étonnant parce que les prêtres jusqu'au haut Moyen Âge avaient tout à fait le droit de se marier. Et c'est un certain Grégoire, un des papes qui s'appelait Grégoire vers je sais pas 1200-1300, qui s'est rendu compte que le trésor, les pépettes de Rome baissaient parce que quand un curé se mariait, souvent c'était des fils de bonne famille.
Il y avait l'héritage.
Il y avait l'héritage. Et l'héritage, il allait aux enfants du dit curé.
Et pas à l'Église.
Et pas à l'Église. Donc il a dit, arrêtez de vous marier. Bon, vous faites ce que vous voulez avec les dames. Mais vous n'épousez plus de façon à ce que l'argent revienne à Rome.
Donc c'est le célibat qui a été remis en cause et pas
l'apanage des moines. Et c'est uniquement pour des raisons économiques que le célibat des prêtres a été imposé au Moyen-Âge.
Mais c'est pas grave.
Ce qui est quand même d'un faux-cuisme absolu.
Grégoire de la Cour, du coup, c'est pas grave. C'est-à-dire que s'ils ne peuvent pas se marier, ils peuvent avoir une activité sexuelle.
Et des enfants, qu'ils ont d'ailleurs les uns et les autres, bien sûr.
Oui, ils ont une activité sexuelle. Il est question de reconnaître ces enfants, d'ailleurs.
Bien sûr, et tant mieux. Et il serait horrible, et il est horrible de priver un homme de chair et de sang du plaisir de l'autre, qu'il soit homme ou femme.
Donc on ne peut plus justifier cette histoire.
Ah non, moi je suis absolument contre.
Des gens qui disent, en gros, si les curés, forcément,
ça n'a rien à voir.
Font des actes de pédophilie, c'est parce qu'ils n'ont pas de sexualité.
Ça n'a rien à voir. On a 80 à 90% d'actes d'inceste, d'abus d'enfants dans les familles. Ce sont des gens mariés avec enfants qui abusent d'enfants. Je veux dire, ça n'a rien à voir.
Ouais. C'est pas le mariage qui les changerait.
Non, mais au-delà de ça, que les prêtres puissent fréquenter qui ils veulent et avoir des relations amoureuses, sexuelles, mais bien sûr, et les protestants, non, ça se passe très bien, je veux dire.
On va continuer d'en parler parce que c'est un vrai suspense. On se demande page après page ce qui va se passer, jusqu'où va aller le papa vis-à-vis du curé et quelle est la réalité des faits entre ce que pense le papa et ce que raconte le curé. C'est chez Jean-Claude Lattès. D'abord, voici Alexis le Rossignol, notre curé.
Oui.
En tout cas, c'est le genre d'émission où on est content de faire des chroniques humoristiques.
Mais oui.
Bon, alors, allons-y, je mangeais.
Bah oui.
Puisqu'il faut le faire. Non, mais je mangeais des pizzas en buvant des bières avec un copain le week-end dernier. Et bon, bah, vous savez comment ça se passe. La pizza, quand on mange un peu trop, ça délie les langues, tu vois. Et tout d'un coup, mon pote Fabrice me dit, Alex, je crois que je suis en dépression. Il me dit ça comme ça, alors qu'au début de la soirée, je lui avais dit « Salut, ça va ?» et qu'il m'avait répondu « Ouais, ça va bien. Et toi ?» Donc, ça fait jamais plaisir de s'apercevoir qu'un ami t'a menti. Quand même, hein. Déjà que j'avais pas tellement envie de le voir. Enfin bon. Là, tout d'un coup, quand même, je me sens utile. Tu vois, un ami qui va mal, ça fait presque plaisir, parfois. Donc, il me dit « Je comprends pas pourquoi ça va pas. Je suis marié, j'ai un gamin adorable, un boulot bien payé et des collègues sympas, mais j'ai l'impression de servir à rien. » Le hasard fait bien les choses, parce qu'après mon bac, moi, j'ai vite fait penser à faire une fac de psycho. Donc je me suis dit, Alex, c'est le moment de mettre en pratique ce que t'as pas appris. Alors la première règle que j'ai pas apprise, mais qui est la plus importante, hein, c'est désamorcer la bombe. Voilà, pour le rassurer. Donc je lui dis, tu sais Fabrice, moi non plus, ça va pas toujours très bien. Hein. Bon, entre nous, c'est moins surprenant, j'ai pas d'enfant, je suis pas très bien payé, et à part Leïla et Fred, mes collègues sont antipathiques. Le résultat est conforme aux attentes.
Bah oui.
Mais je dis, c'est vrai que toi, t'as tout pour être heureux. Hein. Mais tu vois ce qui se passe dans le monde parfois un peu, tu lèves la tête, il y a des millions de gens qui souffrent. C'est ce qu'on me disait quand j'étais petit, pour que j'arrête de me plaindre. Et ça marchait à l'époque, sauf que lui, il me répond, super, sous prétexte qu'il y a plus malheureux que moi ailleurs, j'ai pas le droit d'être malheureux moi ici.
Ah ouais.
Oh la réplique. Mais moi, pourquoi j'ai pas répondu ça à mes parents quand j'étais petit? Il a raison. Ils sont pénibles et malheureux d'ailleurs à nous empêcher d'être malheureux chez nous. Comme s'il y avait une quantité limitée de malheur et qu'il fallait partager, tu vois. Et le malheur, c'est comme le joker, hein. Tout le monde y a droit.
C'est bon. Hein.
Celle-là, tu vois, j'avais un petit doute.
Ouais, bah, bien.
Mais moi, je suis sûr.
Moi, ça passe.
Ça gâche.
Non.
Ça fait t'as bidé, mon gars.
Bien.
Voilà. Non. Alors que les gens dans leur bagnole, ils sont morts de rire. Mais bon, c'est comme les contre-exemples, tu vois. On s'en passerait bien parfois. Parce qu'il en suffit d'un pour plomber une théorie. On dit que les chiens font pas des chats, mais si demain, une chienne donne naissance à ne serait-ce qu'un chaton, on pourra plus le dire. Et on dira quoi à la place ? Oh ben lui, il est bien comme son père, les chiens font pas des canards. Enfin, on aura l'air malin avec ça, tu vois. À moins que le chaton ne devienne l'exception qui confirme la règle. Et c'est là qu'on voit le génie de la langue française. Parce que si demain, une chienne met au monde un chaton, non seulement la règle existe encore, mais en plus, elle est confirmée par la naissance d'un chaton, tu vois. Bon, j'ai eu chaud à la tête en écrivant cette chronique. Ouais. Bon. C'est intéressant tout ça, mais Fabrice, oui. Il n'allait pas mieux, tu vois. Alors, j'ai tenté des questions plus perso. J'ai dit, moi, Fabrice, faut prendre une voix douce quand tu veux aller au fond des choses. Ouais. Fabrice, tu as déjà rêvé que ta mère mourait écrasée sous un caddie de supermarché? Ou alors, quand tu vas aux toilettes chez tes parents, tes selles sont-elles bien moulées ou plutôt molles? C'est dans la psychanalyse pour les nuls, hein. j'ai rien inventé. Hein. Bon, finalement, il m'a dit, on va arrêter là, Alex, ça va déjà mieux. Soulagé en une séance, mon Fabrice. Comme quoi, j'ai pas fait psycho pour rien, moi. Merci beaucoup,
messieurs. Merci, excellent signal. France Inter,
Maggie, la bande originale. Quand t'as des amis comme ça, c'est vrai que...
Ah oui. Dans le livre de Grégoire de la Cour, mon père, il y a de la musique. C'est point commode d'être à la mode quand on est vendu. Il y a Annie Cordy, mais dans la vie aussi de Grégoire de la Cour, il y a la musique. Par exemple, vous écoutiez en 1982.
Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visa.
C'est vrai que ça allège bien l'ambiance de l'émission.
Ouais. La voix. C'est le titre que vous avez choisi pour évoquer vos années dans le monde de la publicité. Pourquoi ?
Bah parce que c'est le début du passage de cette fin d'enfance, d'adolescence au monde adulte, où je cherche un boulot, où je suis marié, je gère comme ça sur la terre, je sais absolument pas ce que je vais faire. J'écoute ces choses-là qui remontent le moral, évidemment. Et je me dis, mon Dieu, tout ça, pourquoi ? On va aller où ? Le temps broie tout. Et paradoxalement, ça me donnait envie d'y croire, et ça m'a donné une approche un peu romantique et douce des choses, malgré les tempêtes qui me secouaient. Et écouter ça me faisait approcher la beauté. Je sais pas, je trouvais ça extrêmement beau, déprimant en diable, et j'aimais ce côté triste et beau, et j'ai toujours depuis associé la beauté avec une forme de tristesse parce que ça ne dure pas. Et la comprendre que C'est dans l'éphémérité que situe bonheur. La beauté des choses. Le bonheur, ouais, c'est un cadeau déjà. De la vie. Ouais.
Alors, mais il est où le bonheur?
C'est
il est où?
C'est étonnant ce que vous dites.
Attendez, il y a une question qui a l'air un petit peu sérieuse.
Merci Grégoire. Non, mais ce que vous dites, c'est très beau, c'est très tendre, c'est une vision assez romantique de la vie. Et à ce moment-là, vous êtes dans le milieu de la publicité. Alors c'est peut-être un cliché, mais ça a l'air tellement aux antipodes.
Oui, mais on a une image très réduite de la pub. La pub, c'est quand même un truc assez chouette que j'ai adoré faire pendant 35 ans. Au fond, on est des sortes de Cyrano de Bergerac. On parle pour un annonceur qui a un truc chouette à dire à des gens qui ne le savent pas. Alors aujourd'hui, c'est facile. On va sur Internet, on pianote. Une fille, elle veut une paire de chaussures. Elle s'en fout de la marque. Elle regarde s'il y a des semelles rouges et combien ça coûte. Mais à l'époque, il fallait créer des préférences. Il fallait créer de la relation. Fallait avoir un discours qui justifie un prix plus élevé. Aujourd'hui, on est dans le moins. Et là, c'était dans le plus. Et moi, j'ai aimé faire ça parce que je mettais en relation des gens qui n'arrivaient pas à se parler. Donc c'était assez chouette, au fond.
Avec des slogans qui ont marqué la mémoire. Ouais.
Nous vous devons plus que la lumière, EDF.
Qui était bien,
ah ouais. EDF. Donc la pub.
Ouais,
la pub.
Moi j'ai lancé.
Non, attends, la pub EDF. EDF, Électricité de France. Nous vous devons plus que la lumière. C'est vous, cette plume-là, mot à mot.
Eh ben c'est pas vrai, parce que je les ai appelés et ils m'ont dit non.
Et quand vous écrivez EDF, nous vous devons plus que la lumière.
Vous savez que vous l'avez. Vous savez que vous l'avez, vous l'écrivez, vous savez que c'est ça.
C'est vrai?
Ah, c'est dingue. Mmh. Il y en a eu pas mal comme ça, mais surtout des campagnes très importantes. J'ai, au-delà des produits commerciaux, j'ai eu la chance de travailler pour la Ligue contre le cancer, pour les campagnes de prévention du sida à une époque où c'était très compliqué, très très compliqué. Ça arrivait, c'était d'autant plus horrible que la chanteuse Barbara avait dit, elle avait bien résumé, il n'y a rien de pire que de mourir par là où on a aimé. Donc aller parler à des jeunes qui commençaient à faire l'amour, que l'autre peut être suspect, enfin c'était, et ça a été des années extraordinaires où la pub, ce langage concis, ramassé, efficace, pouvait dire des choses très dures et très immédiates.
Il y en a une dont vous êtes plus fier que les autres, ça ne veut pas dire, là encore une fois, la préférée, pour reprendre l'expression que vous avez employée.
Je ne sais pas, j'aimais bien le travail qu'on avait fait à l'époque pour Clarins, parce qu'on ne vendait pas de mensonges. On disait par exemple, pour vendre des fonds de teint, que le plus beau des fonds de teint, c'est d'abord la bonne humeur. Et que si après, bah, ça marche pas, bah, il y aura toujours des produits pour vous aider. Mais c'est pas les produits qui vont vous rendre belle, c'est vous, c'est l'estime de soi. Et faire des campagnes comme ça à l'époque où d'autres marques étaient
très
matérialistes.
Mais là, il faut que la marque soit d'accord.
Mais la marque était comme ça. L'ADN de la marque Larin, c'était ça. Fallait creuser un petit peu, mais il était là. Encore aujourd'hui,
il y a
une belle élégance et un discours très respectueux. Et moi, j'aimais bien ce respect des consommateurs qui sont des êtres humains. Moi, la consommatrice de moins de 50 ans, je sais pas ce que c'est. Donc j'ai vraiment, vraiment aimé la pub et ça m'a sûrement appris à tordre le cou aux mots.
Ouais. En 2011, vous publiez votre premier roman et vous écoutez. On retrouve Léonard Cohen.
C'est gay aussi. Hein,
you can hear the boats go by. You can spend the night.
Et en 2011, Grégoire, c'est votre premier roman qui est publié, L'écrivain de la famille. Et il y a eu déjà un dialogue avec un autre auteur, c'est Jean-Louis Fournier.
Oui, c'est une belle histoire.
Ouais.
Bah Jean-Louis, je ne connaissais pas du tout. J'avais lu tout à fait par hasard, récemment, après avoir fini mon manuscrit, un livre de lui qui s'appelait « Il n'a jamais tué personne, mon papa », qui m'avait bouleversé dans l'écriture et dans le propos. Et quand j'ai fini mon texte, je ne savais pas quoi en faire. Je l'ai envoyé à Fournier, que je ne connais pas. Et trois jours après, il m'appelle et il me dit « J'ai adoré votre truc, je m'en occupe. Joyeux Noël, c'était juste avant Noël. » Et grâce à lui, le texte a été édité et puis j'ai continué. Et depuis, on a une relation belle et juste et simple.
Nous avons demandé à Isabelle Debray, bonjour Isabelle, de venir à ce micro. Vous êtes présidente de l'association L'Enfant Bleu, l'enfance maltraitée. C'est au cœur évidemment du roman de Grégoire Delacour, Mon Père, le silence de l'enfant. On n'arrête pas de dire que c'est le problème, ce silence. Comment convaincre un enfant qu'il faut parler? Et puis j'allais dire que le bien, le mal n'est pas le sujet, mais qu'il faut parler. Surtout ne pas se taire.
Alors,
parce que c'est l'arme de ces salauds, quoi.
C'est très difficile pour un enfant de parler, comme vous l'avez dit, monsieur Delacour. 90% des actes de maltraitance physique, psychologique ou sexuelle se passent en intrafamilial, dans la famille. Donc il faut trouver la bonne personne. Il faut que l'enfant trouve la bonne personne qui va l'écouter, qui va l'entendre, qui va l'accompagner, qui va peut-être pouvoir aller jusqu'à le pousser à aller vers la justice. Mais il faut que l'enfant trouve cette personne. Et c'est très, très difficile. Et y compris dans l'église. Il faut surtout trouver la personne qui va le croire.
Une fois il y a des numéros de téléphone pour ça. Il y a le 119.
Exactement. Donc vous avez le 119. Et ça, il faut que les enfants le connaissent.
Je dis toujours le 119 parce que je me dis qu'il y a des enfants
qui sont nuls en maths.
Qui ont moins. Non, mais qui ont.
Ils sont idiots.
Qui ont moins de. Je sais pas.
Ils sont petits.
Qui ont moins de mémoire.
De 5 ou de 6 ans et qui savent pas forcément que 119 commence à se faire sur un téléphone. Mais 119.
Alors il y a le 119, vous avez raison, qui non seulement est un numéro gratuit, mais qui n'apparaît pas sur les factures des parents. C'est très important. Donc l'enfant peut faire.
Il n'est pas traçable.
Il n'est pas traçable. Donc il va pouvoir appeler jour, nuit, 24 heures sur 24. Donc ça, il a la possibilité de le faire. Il a aussi la possibilité d'appeler une association, l'Enfant Bleu, par exemple, où là, effectivement, il aura quelqu'un, et M. Delacour connaît notre association, il aura quelqu'un qui pourra lui répondre, bien évidemment, mais l'accompagner d'un point de vue juridique, thérapeutique.
Mais oui, parce que, pardon, un enfant qui appelle en disant « mon papa me frappe » ou « mon tonton a posé la main sur moi, je ne voulais pas, je ne comprends pas ce qui s'est passé », on ne va pas le protéger immédiatement. C'est-à-dire, il va raccrocher et se retrouver
ça dépend. Le 119 peut l'aiguiller vers une association qui correspondra au problème de l'enfant.
Isabelle, l'enfant a 6-7 ans.
C'est pour ça que c'est très difficile.
Il appelle à 10h du soir, oui. Il va raccrocher, le père peut revenir avec le ceinturon, le père peut revenir pour le frapper,
bien sûr.
La mère peut revenir pour le pincer, le brûler, enfin je sais pas, il y a des horreurs qui se passent.
Il y a des horreurs qui se passent et aujourd'hui, si l'enfant, le mieux pour l'enfant, c'est de trouver quelqu'un proche de lui qui va l'accompagner. Bien évidemment, le parent non maltraitant, si c'est le papa, la maman peut l'accompagner. Nous avons ça, l'association.
Le prof aussi, parce que c'est une personne
alors,
de confiance.
Là, c'est ce qui est important, si vous voulez. C'est aussi tout l'entourage de l'enfant, d'où la formation des professionnels, c'est-à-dire des médecins, de l'éducation nationale, ouais. Des éducateurs, de la gendarmerie, de la police. Éduquer tous, enfin une formation pour tout ce personnel qui pourra justement détecter aussi, et je parle devant des élèves, les professeurs sont les premiers à même de détecter aussi une maltraitance dans leur classe.
Alors, il y a l'autre souci au-delà du silence, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant brise ce silence et parle, le poids de la parole de l'enfant. À quel point est-elle écoutée? À quel point est-elle suivie? À quel point
de mieux en mieux. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Il a la cellule d'écoute, vous savez, où justement on enregistre la parole de l'enfant une seule fois, de façon à justement après ne pas avoir à systématiquement lui reposer des questions. La parole de l'enfant est de mieux en mieux.
À la brigade des mineurs, on enregistre en vidéo.
Absolument.
Ce que dit l'enfant pour qu'il ne le raconte qu'une seule fois.
Exactement.
Qu'il n'ait pas à souffrir de le dire plusieurs fois.
Bien sûr. Donc on essaye après, bien sûr, une fois. Vous savez, si un enfant parle, il peut être sauvé. Moi, je dis toujours qu'un enfant qui arrive à l'association L'Enfant Bleu, il arrive avec une plaie béante. Nous, ce que l'on va faire, on va l'accompagner et on va essayer de cicatriser cette plaie. L'enfant vivra avec cette cicatrice, mais il vivra. Un enfant qui ne parle pas ne peut pas être sauvé. D'ailleurs, notre slogan, c'était « Un enfant ne parle pas, parlez pour lui ». C'est très important de libérer la parole. Et on le voit aujourd'hui sur des adultes qui ont 30, 40, 50 ans. Nous avons des groupes de parole adultes à l'association. Nous avons tellement de demandes que nous ne pouvons pas répondre à ces demandes.
Je sais que chaque cas est particulier, mais quels sont les signes qui font qu'on se dit là, il y a un souci avec l'enfant? On disait que le personnel enseignant était à même de voir quand les résultats chutent ou quand le comportement est différent. Mais dans le livre, on parle de l'absence d'appétit ou de quels sont les grands signes?
Je peux vous en donner quelques-uns. Si un professeur de gymnastique voit que l'enfant, par exemple, ne veut jamais aller à la piscine parce qu'il veut pas se mettre en maillot de bain. Bon, il y a un problème.
Si parce qu'il a des marques.
Exactement. Voilà, par exemple, un professeur de dessin. Peut aussi déceler quelque chose dans le dessin. Un professeur de français dans une dissertation peut tout à fait déceler aussi quelque chose. Puis un enfant, vous savez, nous on fait de la prévention dans les écoles. C'est vraiment, nous sommes une association de terrain. Nous faisons de la prévention dans les écoles. Et lorsque quelqu'un va devant une classe, pratiquement toujours, il y a deux ou trois enfants qui viennent parler après, au moment de la récréation. Donc on le voit, si on...
Mais à la maison, c'est quoi les signes aussi? Parce que là, on parle du personnel enseignant, mais souvent les parents, le drame, c'est de se rendre compte qu'ils n'ont pas vu.
Alors, il y a le manque d'appétit, bien évidemment, il y a la tristesse. Il ne parle plus, il se renferme sur lui-même. Et ça, voilà, les parents... Ah, c'est difficile aussi, quelquefois, pour les parents de déceler. C'est vrai qu'on parlait de l'église tout à l'heure. Bien sûr, il y a ça dans l'église, il y a ça dans l'éducation nationale, il y a ça en famille, il y a dans la famille, il y a partout de la maltraitance.
Dans les clubs de vacances,
animateurs, bien etc. Sûr. Alors, beaucoup de choses sont faites, beaucoup reste à faire, mais la principale chose, c'est rompre le silence. Si on ne rompt pas le silence, c'est fini, on ne peut pas.
J'ai quand même du mal, pardon, hein, je vous en prie. Isabelle, je suis totalement d'accord avec vous, il faut rompre le silence, et encore une fois, c'est l'arme de ces salauds. Le problème, c'est qu'au bout du parcours d'un enfant qui témoigne à la brigade des mineurs, qui va parler à un avocat, à un juge, à un tribunal, au bout du bout, il y a quand même des juges qui vont croire la parole de l'adulte et pas la parole de l'enfant.
Alors, vous avez raison, et c'est pour ça que nous nous bagarrons, et nous nous bagarrons aussi pour essayer de faire évoluer les lois.
Et que dire à un enfant à qui on a dit « il faut que tu parles, ouais. Il y a des lois, on te protège, et celui qui a fait ça, qui a levé la main sur toi, a tort, et il sera puni », qui vit cette histoire, et qui dure en plus plusieurs mois, voire années, et donc qui grandit avec ça, que lui dire quand après il voit que l'animateur, le tonton, le voisin, quelqu'un, l'adulte
vit tranquillement.
Sort, lui sourit, sort du tribunal, lui sourit et lui.
Oui, mais il faut encore que ce soit prouvé.
C'est ça.
C'est terrible.
Mais quand c'est parole contre parole, autant l'adulte n'a pas prouvé qu'il n'avait rien fait, autant l'enfant ne peut pas prouver qu'il a subi des choses, même en montrant des marques d'ailleurs.
Bien sûr, et c'est pour ça que on essaie nous de faire évoluer la loi. Il y a quelque chose, et ça, je voudrais le dire à votre antenne, où on est vraiment pas très content, c'est le moins qu'on puisse dire. Nous voulons inverser la charge de la preuve. Nous estimons qu'un enfant, par exemple, qui a été violé, abusé sexuellement, et qu'il a moins de 15 ans, il est présumé, je dis bien présumé, non consentant. On veut ça dans la loi. Nous ne l'avons pas encore. Il est présumé, c'est-à-dire c'est pas irréfragable, c'est pas automatiquement, mais il faut prouver qu'il était consentant. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Bien sûr. Mais dans l'inceste, avec cette affaire là qu'il y avait eu dans une jeune fille dans un ascenseur.
Ouais, exactement. Il y a un an, donc on essaye de prouver qu'un enfant de 13 ans n'est pas consentante avec un homme de beaucoup plus âgé qu'elle.
Par définition.
Après, libre à la jeune fille
l'adolescente,
de prouver qu'elle était consentante. Mais on veut inverser la preuve. Et pour ce qui est de l'inceste, peut-être même jusqu'à 18 ans. Comment voulez-vous ? Il y a une emprise.
Bien sûr.
Du père, ça peut être la mère, enfin.
C'est plus souvent les hommes,
du parent.
Voilà, des parents sur l'enfant. Comment voulez-vous que l'enfant soit consentant ? Il ne sait pas.
Et il y a la prescription aussi.
Alors, la prescription est jusqu'à 30 ans maintenant. C'est déjà mieux. Nagui, on est parti 10 ans. Nous avions obtenu 20 ans. Nous obtenons 30 ans.
Mais il ne faut pas qu'il y ait de prescription du tout.
Alors, c'est vrai, mais dans notre pays.
À quel moment on peut dire, ouais, c'est bon, c'est date anniversaire.
Dans notre pays, la prescriptibilité n'est que pour les crimes de guerre. Donc, crime contre l'humanité. Maintenant, peut-être effectivement, dans certains pays, il y a l'imprescriptibilité.
Violer un enfant, c'est un crime contre l'humanité, contre son humanité.
Nagui, vous parlez un petit peu à convaincu. Ça fait 30 ans que je suis dans l'association L'Enfant Bleu. J'en suis présidente que depuis très peu de temps. Mais ça fait 30 ans que je milite. Ça fait 30 ans que
je me permets de faire un clin d'œil à Martin Brousse aussi.
C'est pas la première fois qu'il engueule les invités, Nagui.
Non,
mais nous travaillons avec la voix de l'enfant régulièrement. Nous avons souvent même le même avocat, la même affaire. Et Martine est une amie, en plus depuis très longtemps aussi.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de concurrence.
Il ne devait pas y avoir de prescription. Souvenez-vous, cette dame de 72 ans qui avoue qu'elle a été abusée par le curé du village il y a quelques mois, parce que le curé qui en est 92 venait de mourir, et tant qu'il était vivant, on ne lui faisait pas le dire. Il y a quand même une emprise qui pétrifie la parole des victimes, mais pendant une vie entière. Donc il n'y a plus de prescription.
Vous vous rendez compte quand c'est le père, quelqu'un de très proche de la famille, l'emprise est énorme.
Et le silence de la mère aussi, parfois, est coupable.
Et puis, il y a des personnes aussi qui attendent que leurs propres parents soient décédés pour porter plainte ou pour dire ce qui est arrivé, parce qu'ils ne voulaient pas que leur papa, leur maman entendent ça.
Ils ont peur que la famille éclate, parce que souvent, vous avez un seul enfant qui est maltraité sur les 5. Nous avons l'exemple typique d'une jeune femme, de 40 ans qui est venue à l'association. Elle était la 5e de 9 enfants, je crois. Elle a 40 ans. Elle dit aujourd'hui, le père a reconnu, la mère a divorcé et la famille a explosé. Ouais. Donc ils ont peur de ça, si vous voulez. Ils ont peur des conséquences. Le papa va aller
parce
en prison, qu'est-ce qui va faire manger la famille.
Et pour protéger la famille, il y a aussi des exemples qui sont moins dramatiques, mais il y a des gens âgés qui attendent quelquefois la mort de leurs enfants pour divorcer. Ça s'est déjà vu plusieurs fois.
Chez les victimes, il y a toujours un sentiment de culpabilité, en fait, c'est ça ?
Bien sûr, bien sûr. Il se dit, mais c'est de ma faute, c'est
donc
de ma faute.
Donc il y a un suivi de psychologue à avoir en plus de libérer la parole.
Bien sûr.
Une adresse de l'Enfant Bleu ?
397 Terre, rue de Vaugirard. Et puis sinon, vous avez enfantbleu.org. Et vous avez surtout une plateforme que nous avons créée qui s'appelle alertepoursauver.org, où là, la victime ou le témoin d'un acte de maltraitance peut trouver toutes les informations sur cette plateforme et nous allons la développer, j'espère, avec l'aide du gouvernement.
Merci Isabelle Debré d'être venue à ce micro apporter votre expérience. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Vous allez nous parler érection.
Oui, parce que
si l'enchaînement est bien trouvé.
Voilà. Non, bah là on parle de choses effectivement traduites de consentants qui ont bu un coup avant, qui sont peut-être rencontrés en boîte, etc.
C'est obligé de faire boire.
Des gens bien. Non, parce que l'IFOP a fait un sondage auprès de mâles désappointés à deux doigts d'organiser les funérailles de leur sexe. Le constat est clair. Il y a une vague, Nagui, sans précédent de troubles de l'érection en France.
Pourquoi tu me parles ?
On attend le témoignage, Nagui.
Je ne peux pas me regarder moi-même, donc.
Très bien, on en parlera tout à l'heure après les infos de midi. La bande originale avec Leïla Kadoumi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bonjour Leïla.
Tom Villa,
bonjour.
Alexis Le Rossignol,
bonjour.
Frédéric Siris, Tanguy Pastureau nous a rejoint, et notre invité Grégoire Delacour.
Bonjour. Bravo.
Grégoire Delacour, vous signez Mon Père, ce roman chez Jean-Claude Lattès, avec, on s'en est rendu compte tout à l'heure en parlant avec Isabelle Debré et l'association, les associations qui protègent les enfants, on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail. Est-ce que l'idée aussi de ce roman n'est pas de faire bouger les lignes et de remettre le sujet sur la table, et qu'il y ait justement des émissions comme la nôtre ou des articles qui parlent de ce qui se passe dans l'Église, du silence des enfants et de la loi du talion, enfin de tout ce qui est toutes les valeurs qu'il y a dans votre livre.
Bien sûr, moi j'aimerais bien que ça bouge.
Scandale.
Voilà, et il y a peu de romans qui traitent ça. Il y a beaucoup de documentaires, beaucoup de témoignages. Il y a eu le film d'Ozon qui a évoqué récemment l'affaire Barbarin. Et c'est bien que des artistes entre guillemets s'emparent comme ça de sujets très importants et contribuent avec leur langage, parce que je crois que l'art est là aussi pour changer le monde. En Chine, il y a beaucoup de révolutions qui se font, enfin de discours par les peintres, etc. Et que les romans, la danse, la musique peut bouger les lignes, et on doit participer à ce grand changement. Après, ça va bouger, comme l'a dit ou l'a laissé entendre Madame Debré tout à l'heure. C'est des toutes petites choses, malheureusement. On peut pas du jour au lendemain dire ça s'arrête. Alors, en même temps,
c'est un travail de famille.
Le pape pourrait dire ça s'arrête, je n'en veux plus, puis c'est réglé. Puis tous les coupables, ils vont en taule, on n'en parle plus. Mais il y a aussi un système de justice, parce que tripoter un enfant, ça coûte à peu près pareil que de casser un radar en termes de justice. Donc c'est un peu embêtant de se dire que le corps d'un enfant a moins de valeur qu'une machine qui flash son papa, qui va vite. Donc c'est aussi s'interroger sur la propriété du corps. Le corps est quelque chose qui appartient à personne. Il appartient pas légalement à celui qui est dedans. Alors votre voiture est mieux protégée que le corps. Donc on peut attenter au corps d'une femme, d'un homme, mettre une main comme ça dans un métro, parce que finalement c'est la propriété de personne. Et il n'y a pas cette morale qui, sur une génération, fait qu'on est des gens plutôt bien élevés, parce qu'on a tendance à respecter les choses. Donc il y a plein de choses à faire. Mais je voudrais dire aussi, quand on attaque les gens de l'Église, les barbarins, combien de mamans se taisent quand le père va englander le petit en haut et qu'elle le sait et qu'elle n'ose pas en parler, pour pas casser la famille, parce que papa il va en prison, parce qu'il n'y a plus de revenus, parce qu'on doit protéger la structure contre le plus faible. Et combien d'enfants sont victimes du silence aussi de ceux qui savent les plus proches.
Et sûrement la maman elle-même victime aussi.
Probablement, ou pas d'ailleurs, mais c'est tellement difficile, quoi. Et aller dire quand votre maman le sait et qu'elle dit rien, il y a eu le livre important là, de Flavie Flamand à l'époque, La Consolation, où la mère était même coupable, puisqu'elle allait livrer.
Elle l'a amenée à l'abattoir, carrément.
Elle l'a amenée à David Hamilton, qui recevait nue d'ailleurs la petite, bonjour madame, et qui, quand elle venait chercher sa fille, lui remettait un polaroid charmant de sa fille, et elle avait le polaroid de la vedette de l'époque.
Il y a eu aussi des chatouilles d'André Bascon, où pareil, les parents
étaient des passeurs.
On va continuer d'en parler de votre très bon roman, Grégoire Delacour, dans quelques instants, mais d'abord, voici Tanguy Pastureau. Tanguy, l'érection chez les Français devient rare, dites-vous.
Oui, elle est en baisse constante, ce qui est paradoxal pour une érection physique de ce genre. Et c'est tant mieux car l'érection n'a plus de sens. Déjà, il faut arrêter de faire l'amour parce qu'en faisant ça, on se reproduit et on est trop nombreux pour la planète. On le voit quand on sait que des dizaines de milliers de gens votent pour François Asselineau. On se dit, mais alors combien sommes-nous en tout? Et puis, il était temps d'évoluer. L'érection, c'était la seule chose qui nous restait de l'homme de Cro-Magnon qui était très chaud. Hein, il avait intérêt puisque les préservatifs à l'époque étaient en défense de mammouth. Il pesait 1,2 kg, il fallait arriver à les soulever. Hein, parfois, il croisait un groupe de femmes, il essayait de les faire défiler avec le doigt comme sur Tinder, mais enfin, ça marchait pas. Mais tout ça, c'est loin de nous. Et nous sommes des post-humains qui misons tout sur nos capacités intellectuelles. C'est pas gagné. Et n'avons plus besoin de libido. Il y a donc, les spécialistes le disent, une baisse globale du désir masculin qui est constatable. Prenez Zaya. Avant, la simple évocation de ce prénom nous faisait suer, les sécrétions giclaient, les pores de nos peaux suintaient, le mâle n'était plus que liquide, on pouvait mettre toute une équipe de foot dans une bouteille de cristalline. Et là, Zaya, cette semaine, était à Cannes, elle est apparue toute serrée dans sa robe, c'est la seule à devoir être décapée ensuite par une équipe de désincarcération. En une décennie, elle a gagné 18 tailles de soutien-gorge, dans la salle de projection, on lui a attribué 3 places, une pour elle, 2 pour ses seins, et rien. 3 minutes plus tard, on avait oublié jusqu'à son existence, alors que naguère, on a mis 5 années à se remettre du bout de téton de Sophie Marceau. L'IFOP, l'Institut de sondage, qui en avait marre d'interroger les Français sur la perception qu'ils ont de Nathalie Loiseau, puisque la plupart répondaient « qui ça ?», s'est donc penché sur la question. Ils ont appelé des mecs pour leur demander si leurs érections étaient convenables. Bernard-Henri Lévy a répondu « elles sont incroyables à partir du moment où je pense à moi-même ». Et 65% des hommes ont avoué avoir des problèmes récurrents en la matière. 65%,
c'est beaucoup.
C'est énorme. Ouais. Donc soit nous sommes tous devenus honnêtes, même Patrick Balkany qui a dit « j'avoue que ça m'arrive hein, », par contre pour tout le reste c'est faux. Ces 200 milliards d'euros m'ont été prêtés par un ami. Oui, il a les mêmes noms et prénoms que moi. Et alors ? Soit il y a une réelle baisse de l'érection. Et là, les Français se mettent à se raconter à l'IFOP. Les jeunes, notamment, disent « c'est de la faute des écrans hein, ». Ils préfèrent regarder Netflix que faire l'amour. Et pourtant, ça prend plus de temps. Personne n'est capable de proposer à l'autre avec son sexe 10 épisodes d'une heure en 2 jours. Hein, puisqu'avec un tel rythme, on ne fait plus l'amour, on fait du feu. Hein, sur Koh-Lanta, on vous colle dans un coin avec 4 bras de vie, on vous dit « vas-y, vas-y, José, donne tout ce que t'as, on en a marre de bouffer du riz cru ». La tablette entraîne une baisse de désir. Et c'est vrai que regardez Frédéric Sigrist, il lit sa chronique sur son iPad.
C'est vrai.
Bah, à la sortie de l'émission, vous lui dites « ça te brancherait un petit tour au WC pour A5 A7, ma petite chose ?» Il refuse. Mais Daniel Morin, qui tourne à la feuille A4, depuis le début de sa carrière, juste pour lui, on a déjà rasé l'équivalent de 2 fois la forêt de Fontainebleau. Les sangliers, à l'évocation de son nom, pleurent. Et bah, vous lui proposez la même chose, il vous dit « ok, mais rapide, j'ai 7 papiers à écrire pour demain. » Parce qu'il est old school, c'est un type avec des besoins primaires. Quand il va à Center Park, il dort nu au bord de l'étang avec les grenouilles.
Alors le problème des écrans, c'est qu'on devient accro et surtout le contenu est très addictif.
Mais bien sûr, tout le monde a envie de savoir comment se finit Game of Thrones parce qu'on n'en a aucune idée. Alors qu'un rapport sexuel, on sait qu'à la fin, on va être un peu gêné, vaguement humide, qu'il va falloir chercher son slip, attendre un peu avant de remettre la télé, sinon l'autre se vexe. Enfin, c'est pour ça que les gens fumaient après l'amour pour passer le temps. Mais on ne fume plus, on ne se drogue plus, à part 2-3 types portent de la chapelle qui se piquent, mais enfin, il faut avoir envie de faire l'amour sous une tente. Donc, on s'ennuie. Mais c'est tout le problème. Game of Thrones, il y a des loups et des types en peau d'ours dans la vraie vie, non, à moins de faire l'amour au puits du fou. Hein, mais vous risquez de surprendre les touristes. Certains diront, c'est sympa, mais c'est l'animation la moins spectaculaire de tout le parc. Alors, autre facteur, le lieu de vie. 46% des hommes vivant en région parisienne ont des troubles de l'érection, seulement 36% à la campagne. Hein, l'amour est dans le pré en ville, ça dure 7 minutes. À la fin du speed dating, le type dit « j'ai changé d'avis, je vais plutôt m'abonner à Beansport », tac, c'est fini. Enfin, les hommes parlent aussi eh bien, du porno, hein, très accessible et qui casse, selon eux, leur libido. Car à moins d'avoir la souplesse de Johnny Clegg en 88, hein, le gonze arrivait à se caler le pied droit derrière la nuque quand il faisait un concert, le plus disait, je sais pas, un tableau de Picasso, eh ben, le porno, c'est impossible à reproduire, on est frustré. Mais tous les gens qui, il y a 40 ans, après avoir vu Travolta bouger du bassin, ont essayé de faire pareil au club Caliman Dijon, savent de quoi je veux parler. Il y a eu des claquages, des attaques cardiaques et un décès. Monsieur Sanchez, 27 ans à l'époque, qui s'était fait pousser les poils du torse des Bee Gees, avec le zip de sa combi à paillettes, ça a tout fait remonter, il est mort étouffé. Bref, l'érection, c'est fini. Rip la verticalité, et tant mieux, parce que le plaisir, c'est aussi mater une bonne série chez soi à la cool. On sait jamais comment ça finit. Sauf si on couche avec le scénariste, mais enfin, il faut habiter Hollywood. Et en plus, ensuite, on n'a pas besoin de nettoyer le canapé. En plus, on fera moins d'enfants, parce que l'on est trop nombreux. Hein, vous allez voir dimanche, combien de gens vont voter Asselineau.
Merci Tanguy Passion. La bande originale, Nagui,
sur France Inter. Et dans cette bande originale, donc Grégoire Delacour est notre invité pour parler de Mon Père. On a beaucoup de choses à dire, notamment, alors on parle du silence. Le silence évidemment de l'enfant qui ne dit rien, c'est le premier silence. Et puis le silence des institutions, le silence de l'Église, vous l'avez évoqué. Le silence peut-être des juges, le silence des lois aussi, de la société. On traîne derrière nous, Grégoire Delacour, des années. On a un passif quand même, on va pas régler le problème du jour au lendemain.
Ah non, c'est compliqué. Il y a des vieilles dames de province que j'ai rencontrées qui ont su que le petit était passé à la casserole. Oui, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Ça faisait partie d'une éducation. C'est quelque chose d'incroyable. J'ai jamais eu une révolte complète contre ça.
Il y a le silence des croyants, quand
oui,
même.
Oui, c'est très compliqué. Mais
c'est comme la pédophilie. Il y a une cinquantaine d'années, on parlait des balais bleus ou des balais roses, pour ne pas évoquer, pour ne pas mettre un nom là-dessus.
Ouais. Mais c'est des choses, il n'y a pas de mots. Et c'est facile. Vous savez, je me souviens, quand on parle pas des choses, on ça évite de les rendre réelles. Ouais. Je me souviens du sida à l'époque, quand c'est arrivé, on nommait pas les malades, on savait pas comment les nommer. Et il y avait Le Pen. Le père qui a dit, on va les appeler sidaïques, parce qu'il y avait un mot méchant comme ça, ça les condamnait. Et puis l'autre côté a dit, on va essayer de les appeler les sidéens, c'était plus doux. Et vous voyez, la guerre qu'il y a eu sémantique pour nommer des malades, heureusement c'est resté les malades du sida, comme ça c'est des gens qu'on a gardés humains. C'était des vrais gens malades. Donc ne pas nommer les choses, ou les nommer à tort et à travers, peut faire un mal fou. Aujourd'hui on parle d'abus sexuel, mais il n'y a pas de mot là-dessus, on ne sait pas. Moi, je sais, quand j'ai écrit dans mon livre, j'ai essayé d'écrire, c'est quoi abuser, c'est quoi toucher, c'est comment
vous avez
conquérir un petit.
Vous avez voulu être concret, parce que à la fois, il y a toute la part de séduction, de ce que racontait Leïla tout à l'heure. Soyons amis. Si on est amis, on a des secrets, et on ne va pas se trahir l'un l'autre, puisqu'on est amis pour la vie, puis ça sera notre force, on aura quelque chose en plus que les autres n'ont pas, tous les deux. Mais vous allez beaucoup plus loin dans ce que vous racontez. Vous vouliez mettre des mots sur des images.
Mais oui, le papa, comme vous disiez, Leïla, il arrive, il dit, je veux tout savoir, je veux qu'il n'y ait plus un mot, plus rien, je vais lever toutes les pierres, je veux tout savoir, ce que tu as fait ou ce que vous avez fait à mon fils, comment ça se passe.
Ce que le curé ne veut pas, d'ailleurs, au fur et à mesure, il dit, vous voulez que je continue ou pas, tellement il sent.
Mais oui, et il a besoin de savoir, parce qu'il dit, je ne veux plus qu'il y ait que d'horreur possible à imaginer.
Une zone d'ombre.
L'imagination peut aller, c'est infini dans le mal qui est fait. Et il veut, et il force le prêtre à tout dire, et c'est d'une violence inouïe, puisqu'il va lui raconter exactement ce qu'il a fait à l'enfant, et on va comprendre la mécanique de ça. Et comme je voulais dénoncer le silence, il fallait absolument que je parle, il fallait absolument que je dise des choses. J'allais pas écrire un livre sur le silence et me taire à mon tour. Et un des deux évêques que j'ai appelé et vu pour me renseigner avant, pour pas dire trop de bêtises, il m'a dit, il savait pas de quoi j'allais traiter dans le livre, il m'a dit, vous allez parler de ça, alors dites. Et c'est marrant parce que c'était une sorte de bénédiction en disant allez-y, arrêtons de nous taire et racontons ce qui est vraiment fait aux enfants. Alors ce qui est curieux, c'est que par rapport à Émile Louis qui attrapait des fillettes, les violait et les égorgeait après, là on n'est pas dans la violence, c'est pire, on est dans l'emprise insidieuse, on est dans une sorte de séduction,
manipulation,
exactement une manipulation, on est dans une sorte de tendresse, enfin tous les mots qu'on connaît de l'amour, de la tendresse, de la caresse, de tout ça, ici sont tournés par un pervers, mais de la part de l'enfant, il n'y a pas d'agression, le prédateur, il prend son temps, il va prendre son temps, s'il ne veut pas être tripoté ce jour-là, on réussira demain, et il crée une relation, le prêtre ou ce prédateur familial, qui ne s'arrête que quand l'enfant dit non ou quand le type se fait choper. Mais ça peut durer très longtemps. Lui, il est aussi à la recherche d'une relation. Et c'est vrai que cette violence inouïe qui se retourne contre les enfants et donc contre eux, sont souvent des gens qui eux-mêmes ont été abusés. Mais comment on répare ces enfants victimes pour qu'ils ne reproduisent pas? Parce qu'au fond, à un moment, ils n'ont connu que ça. Ils n'ont connu que ça. Ajouter à cela, Nagui, quand l'enfant de 8 ans a du plaisir, on n'en parle jamais. Ouais. Et tout d'un coup, être caressé dans le dos, sur le sexe, etc. À 8 ans, on ressent du plaisir. On ne sait pas le bien et le mal. C'est à peu près vers 8 ans que ça commence à prendre conscience des choses qui se font, qui ne se font pas. Mais parce qu'il y a une vie sociale, il y a les copains, on voit qu'ils ne vivent pas pareil, sont les parents, etc. Mais quand en plus vous avez du plaisir, mais c'est triple peine pour le gamin. il a eu du plaisir. Et on va lui dire, mais c'est mal. Or, le plaisir, normalement, c'est pas désagréable. Non. Donc, il y a tout ça. Et ce gamin, mais il est broyé, quoi. Un coup de poing, c'est un coup de poing, à la limite.
On a mal.
On a mal, on peut répondre par un autre coup de poing. Mais là, on est dans une sorte de séduction, de maléfice, de la part de quelqu'un qui est capable de dire, et je cite la phrase dans le livre, quand il dit, mais tu crois que si c'était mal, Jésus me laisserait faire? Et le gamin, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Jésus. L'autre, c'est Jésus. Donc c'est terrifiant. Et ça, c'est d'un crime absolu, de absolu. C'est-à-dire se servir d'une illusion, de cette autorité-là, d'amener l'enfant à du vrai plaisir, et puis le gamin est détruit, quoi. Et c'est plus que des prédateurs, c'est des infra-humains, quoi. Ça passe sa place parmi nous, je crois, ces gens-là.
La force également de ce roman, c'est sa tension policière et romanesque. On va en parler dans quelques instants chez Jean-Claude Lattès, mon père. D'abord, voici mon Fred.
Eh oui, transition compliquée, hein, toujours. Hein, c'est... Alors, ça y est, Nagui, je vais souvent chercher mes enfants à la sortie de l'école. Parce que déjà, quand j'y vais pas, passer 19h, l'école m'appelle.
C'est toi.
Ça, c'est un truc que je comprenais, que je comprendrais jamais avec l'éducation nationale, c'est qu'ils gardent pas les enfants la nuit. Ah oui. Alors que c'est pourtant le moment où ils sont le plus calmes. Hein, c'est mal pensé, vu qu'en plus, le lendemain, on doit les ramener. On va leur apprendre à optimiser le temps de travail après ça. Non, et puis surtout, je vais chercher mes enfants à la sortie de l'école parce que j'ai un truc que Nagui n'a pas.
Pas
50 centimètres de plus, c'est trop facile. Non, je veux parler du temps. Oui, j'ai du temps. Hein, on dit que le temps, c'est de l'argent. Ben, avec Nagui, on s'est séparé le dossier. Voilà, il a de l'argent et moi, j'ai du temps. Hein, alors, c'est un choix, hein, parce que moi, 4 minutes de chronique hebdomadaire et une ou deux représentations par semaine à l'espace culturel Louis Aragon, je suis au taquet de ce que je peux accepter comme contrainte et soumission à l'ordre moral productiviste. Hein. Clairement, le burn-out est aussi éloigné de moi que le savon l'est de Michel Houellebecq. Et donc, quand je vais chercher mes enfants, j'ai fait plusieurs constatations. Alors déjà, il y a de plus en plus de papas, ce qui peut être une bonne nouvelle, ça veut dire que les hommes s'investissent plus, ou qu'il y a de plus en plus de chômeurs, ce qui veut dire que les entreprises investissent de moins en moins dans les hommes. Ah, donc en même temps, j'ai envie de dire, ce qu'on perd niveau précarité, finalement, on le gagne niveau parité. Et c'est toujours une situation particulière quand t'as un groupe d'adultes qui attendent des enfants devant une grille. Parce que déjà, entre parents, on ne se connaît pas. Il y a toujours cette question qu'on se pose intérieurement de manière un peu honteuse. Et est-ce qu'il attend bien ses enfants? Non, mais on vérifie toujours qu'il y ait bien un petit garçon, une petite fille qui sort en criant « Papa, papa !» Si les enfants savaient à ce moment-là le pouvoir qu'ils ont sur leurs parents, moi j'ai toujours peur que ma fille, quand elle sort de sa classe pour se venger, elle me regarde et se met à hurler « Au secours, le grand monsieur chauve et basané, il veut m'enlever pour me forcer à regarder des films de gladiateurs !» Là, avec ma gueule, mais il n'y a pas photo. Hein. En 3 secondes, je suis au sol avec 4 papas sur le dos et du spray au poivre dans les yeux, c'est sûr. Quand je suis devant la grille, à côté des autres parents, moi, en général, j'ai pas envie de parler. Déjà, parce que si j'aimais vraiment parler avec les gens, je ferais pas du one-man show. Et puis ensuite... Non, mais c'est vrai, j'ai envie de parler. Non, pas moi. J'aime bien parler tout seul. Et puis ensuite, à la sortie de l'école, c'est comme quand t'attends tes bagages sur le tapis à la sortie de l'avion. Tu vois, tu veux vite récupérer les tiennes, t'es fatigué et rentrer chez toi. La petite frisée, là, je crois que c'est à moi. Ah non, c'est la mienne. Oh, excusez-moi, je les confonds toutes. Voilà. Alors, avoir un enfant, c'est pas suffisant comme point de départ d'une relation. Enfin, avec la mère, si. Mais avec des inconnus, non. C'est pas parce que t'as donné un nom à un coït un jour, parce que c'est ça un enfant, c'est un souvenir de baisse qui regarde pas de patrouille et qui met du 5 ans. C'est pas pour ça que soudainement, il existe une solidarité parentale. En plus, sympathiser avec d'autres parents, c'est risqué. Parce que le jour où son gosse fait du mal à ton gosse, eh ben moi, je veux pas commencer à devenir sentimental le jour où j'aurai à défoncer le père et son gosse. Il faut rester professionnel. Mais non. Et puis, on a beau être tous différents, à la sortie de l'école, il y a un truc qu'aucun parent n'apprécie. C'est quand la maîtresse dit devant tout le monde « Monsieur Sigrist, je peux vous parler ?» Alors là, tu sais qu'immédiatement, tout le monde est dans le jugement. Les autres parents, ils sont sans pitié. Tu sais, ça se voit dans leurs yeux, ils ralentissent avec leurs mots. Comme quand il y a un accident sur l'autoroute, ils sont là. Ah là là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sens qu'ils ont envie de demander à leur gosse. Qu'est-ce qu'il a fait, la petite fille du persigriste? Et puis, ils ont cet air du collègue qui sait que t'es viré, mais toi, on te l'a encore pas dit, tu vois. C'est horrible. Parce que tu sais pas pourquoi elle veut te parler, la maîtresse. C'est comme un lendemain de cuite, sauf que là, t'es sobre. T'as ta cuite, elle a une vie autonome, un cartable sur le dos, et elle t'appelle papa. Et tu sais, t'as envie de dire à ton gosse avant de parler à la maîtresse, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as dit? C'est pas possible. Je te laisse quoi tout seul, quoi? 8 heures? Et en 8 heures, tu dis des conneries, mais c'est pas possible. Et c'est pour ça que les parents, ils sont super chiants avec les enfants dans le TGV. Tes gosses, finalement, c'est comme une franchise de toi-même. Ils sont en charge de notre image de marque. C'est pas le bruit qui gêne, parce qu'on est tous là en train de dire, oui, les enfants, ils font du bruit. Mais non, ils ont raison de faire du bruit. Ils s'amusent, ils rient, posent des questions. C'est eux qui ont raison. Mais nous, en fait, on veut surtout pas être jugés. Alors, sinon, on est là comme ça avec nos gosses. S'il te plaît, mon chéri, tais-toi. Parce qu'après, Tanguy Pastureau, il va faire une chronique réac sur les gosses dans le TGV. Et monsieur Sigrist, je peux vous parler à la sortie de l'école, c'est l'équivalent scolaire de j'ai trouvé un poil de cul dans ma soupe, appelez-moi le directeur. Et le pire, c'est que quand la maîtresse, elle m'a fait le coup à moi. J'ai beau avoir 41 ans, j'avais de nouveau 8 ans, tu vois, j'étais là, je voulais tout avouer, j'ai eu une enfance difficile, j'ai eu qu'une moitié de ballon, c'est pas ma faute. Et elle me dit, pardon monsieur Sigrist, mais est-ce que vous pourriez penser à rapporter le livre que votre fille a emprunté à la bibliothèque?
Ouf.
Et là, je la regarde, quoi? C'est pour ça? C'est pour ça que tu m'as affiché devant tout le monde? Là, il y a tous les parents du village qui pensent que je suis fiché S, tout ça, pour un livre? Franchement, au royaume des erreurs judiciaires, il y a Patrick Dils et moi. Du coup, je lui ai demandé un droit de réponse, et ben, je viens de le faire ce matin.
Merci, Valérie.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Grégoire Delacour, mon père, au-delà de briser le silence, au-delà de tendre une main ou un micro aux enfants pour dire justement, et vous devez parler, vous devez réagir, et de dénoncer ce qui se passe dans l'église, et vous l'avez bien fait tout à l'heure, vous vouliez que ce soit aussi un roman à suspense.
Oui, que ce soit pas une thèse, pas un essai, pas un témoignage, pas un fait divers, que ce soit un vrai roman, qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Il arrive dans l'église, le prêtre dit non, c'est pas moi, et puis est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, puis qu'il y ait des rebondissements,
c'est ça.
Et qu'il y ait quelque chose de l'ordre du roman, c'est-à-dire du plaisir aussi de la lecture.
Pourquoi c'est pas vous vouliez ça?
Bon, parce que sinon, c'est assez ennuyeux, c'est assez plat, et c'est un face-à-face. Ce qui est bien dans un huis clos, c'est qu'il y a des rebondissements. Et même moi, j'étouffais parfois dans ce huis clos, qui dure quand même 2 jours et demi, qui va symboliquement du vendredi après-midi au dimanche matin, car on rappellera certains dimanches de Pâques, à une sorte de résurrection à la fin. Et j'ai dû sortir moi-même en tant que romancier de l'église, faire des petites scènes, des petits flashbacks, des petites choses pour raconter l'histoire de cet enfant. Parce que je voulais pas qu'il soit là, je voulais pas parler à sa place. Mais je voulais montrer cet enfant dans ce qu'il avait de joli quand il court sur une plage, parce qu'on sait, nous lecteurs, que l'abomination qui lui a été faite. Et tout d'un coup, c'est terrifiant de penser, oui. Et du coup, je regarde toujours les gamins dans la rue, en tout bien, tout honneur, mais de me dire, c'est que ça, c'est un petit gamin qui sourit, et c'est ça qui va être broyé, c'est insupportable.
Et c'est beau, ces instantanés, là, ouais. Le temps d'avant, les petits moments comme ça qui viennent casser aussi le rythme du récit, ouais. Parce qu'on a tout d'un coup des déversoirs de paroles, ouais. Et puis on a tout d'un coup une petite photo, ouais. De cet enfant avant. Dans l'innocence, et on imagine que ce père n'a de cesse de repenser au moment où son fils était encore un enfant comme les autres.
Ouais. Et le roman finit en donnant la parole à l'enfant, et il y a encore un seau d'eau froide qui nous arrive en plein visage. Et c'est là où on se dit qu'il écrit bien, Grégoire Delacour, et encore une fois, lisez-le.
C'est juste à la fin qu'on se dit qu'il écrit bien, parce
non.
Que c'est
dommage. Non,
c'est vraiment, il y a 200 pages, c'est quoi ce truc?
Non, mais en tout cas, ça se lit d'entrée. On a envie de savoir ce qui se passe, et ça, c'est une réussite. Des excuses à présenter, d'ailleurs.
Bien sûr, déjà, désolé pour mon voisin de droite, Tom Villa. Alors, j'ai eu au téléphone quelques amis géorgiens, tatoués au visage, lourdement armés, hein, les frères Salokashvili. Ils ont très mal pris, hein, quand tu compares leur charmant pays à Beauvais. Alors, bon, ben voilà. Salut l'artiste, hein, Tom, t'as eu une jolie carrière. Et puis quand même, mourir à Tbilissi, c'est un côté chic, c'est un côté romantique. À bientôt, là-haut. Désolé pour la famille Giscard, cette famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française. Alors je crois originaire, comme ça, de mémoire, hein, de Marvelos, en Lozère, puis fixé au début du 19e siècle dans le Puy-de-Dôme. Enfin, je suis pas très sûr, je fais ça de mémoire.
Ouais, de mémoire,
hein. dont le nom a été insulté par Alexis Le Rossignol quand il a osé dire que c'était un plus joli nom pour un chien. Eh, quand on s'appelle Le Rossignol et qu'on est moitié humain comme toi, on la ferme, mon garçon. Ben voilà, c'est tout. Je suis désolé pour ces gens-là et ça
merci.
Suffira bien pour aujourd'hui.
Merci mille fois. Merci, Grégoire Delacour.
Merci.
À bientôt. C'est Mathilde Seigné que nous recevrons lundi dans la bande originale. Et ce week-end, il se passe quoi, Daniel, dans Vous les femmes?
Dimanche 17h dans Vous les femmes, Nash pour son nouvel album L'Aventure et Liliane Rovert, vous savez, l'attachée de 10%.
Et ce soir, Frédéric Sigrist sera à 20h30 à Chennevières-sur-Marne et lundi sur la scène de la Halle au Grain à Toulouse. Merci, Grégoire Delacour.
Merci.
À bientôt, merci à vous, bonne journée sur Inter et bon week-end. À lundi.
Merci la bande, merci, à lundi.